Merci beaucoup Thierry, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici. Et moi, effectivement, mon parcours a été plus sur les questions internationales et sur les questions de géopolitique, mais aussi de résolution des conflits, ce qu'on appelle résolution, prévention, résolution et gestion des conflits, notamment des conflits armés, des conflits violents, et notamment en Afrique. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ce contexte géopolitique dans lequel on est, parce que on est dans un moment de l'histoire, dans une période de l'histoire qui est conflictuelle, qui est tendue, qui est polarisée, et je pense qu'il n'est pas très sage de l'ignorer. Pour rebondir un petit peu sur la présentation qu'il y a eu tout à l'heure, à l'instant, si on veut éviter la guerre, il faut préparer la paix. Et c'est vraiment dans cette optique-là que je voudrais commencer mon intervention. La semaine dernière, j'étais à Berlin, et j'étais notamment dans des anciens quartiers de Berlin-Est. J'étais en conférence avec d'autres experts, et j'ai aussi rencontré des gens du gouvernement allemand. Et ces personnes me disaient, notre gouvernement, notre administration, elle est dans les bâtiments de l'ancienne Allemagne de l'Est. C'est à côté du grand boulevard qui s'appelle Unter den Linden, qui va vers la porte de Brandebourg. Et cette personne, qui était une personne assez haut placée au gouvernement allemand, disait, il faut se rappeler que voilà, ces bâtiments étaient les bâtiments du gouvernement de l'Allemagne de l'Est. Et j'ai senti dans cette réflexion la peur d'un retour en arrière. Finalement, le mur de Berlin, il est tombé en 89, ça fait 35 ans, seulement 35 ans. Et les gens, aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je vais rentrer un peu plus tout de suite, ont peur d'un retour en arrière ou ont peur de cette nouvelle période qui s'ouvre. Ils ont peur de quoi? Alors, ils ont surtout peur, évidemment. Ils ont surtout peur donc de la guerre en Ukraine et de l'expansion, de l'impact de cette guerre, des conséquences de cette guerre sur le continent européen, parce que ce qu'on observe depuis 3 ans, et en réalité, c'est depuis plus longtemps, mais on l'a un petit peu ignoré ces dernières années, c'est le retour de la guerre en Europe. Et on a aujourd'hui une Russie qui est expansionniste, qui est impérialiste et qui est revancharde aussi, hein, qui est animée par un sorte de ressentiment historique. Et évidemment, les Allemands ne sont pas les seuls à avoir peur. Les pays baltes ont peur, les pays scandinaves ont peur, la Pologne a peur, mais se prépare aussi. Donc, évidemment, ce changement de direction, cette prise de conscience d'un certain nombre de pays européens est vraiment importante pour nous, en Europe de l'Ouest, et il faut qu'on y réfléchisse beaucoup. Et dans ce contexte-là, qui est très polarisé, qui est très tendu, on a eu aussi, bien sûr, le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis et tout un déluge d'annonces chaque jour depuis fin janvier qui n'augure pas bien des relations internationales de l'avenir. Là aussi, on a des annonces très brutales et on a quand même aussi un retour d'une tradition américaine qui est l'isolationnisme, le protectionnisme. La guerre commerciale, on l'a entendu ces derniers jours. Mais c'est très brutal, et ce qui transparaît, en fait, ce qui vient de ces annonces, ce qu'on ressent de ces annonces, c'est que ils n'ont pas de problème à détruire des relations existantes. Ils n'ont pas de problème à détruire non plus le soft power américain. On croit, là, on est dans un moment où les États-Unis croient beaucoup au rapport de force assez brutal. On est retourné à un moment de l'histoire, là aussi, qui est très important pour nous, parce que, et j'y reviendrai après, parce que ça détermine l'ordre international dans lequel on a vécu et les règles de cet ordre international. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États-Unis étaient une puissance hégémonique et qu'ils ont construit l'ordre international de 1945 autour de leur hégémonie. Être une puissance hégémonique, ça veut dire pas juste dominer en termes de force économique, force militaire, etc., mais aussi créer un système dans lequel cette hégémonie est acceptée et acceptable en échange de contreparties. Et ces contreparties, c'est la protection, la sécurité, mais c'est aussi un grand système qui s'est mis en place autour de l'ONU, de droit international, hein, de souveraineté, de droit international. La Charte des Nations Unies, elle est une charte qui est censée maintenir l'ordre et la paix internationale. Et tout, cette hégémonie-là, donc, indique une responsabilité. Et c'est aujourd'hui, c'est ça qui est difficile à accepter et à comprendre, c'est que ils rejettent cette responsabilité. Maintenant, ils disent, d'une part, la souveraineté sur laquelle beaucoup de pays ont quand même axé leur protection nationale, notamment les pays qui ont été décolonisés en 1960, hein, tous ces pays-là, pour eux, la souveraineté, c'était très important. Et là, tout d'un coup, on dit, on envahit l'Ukraine, on envahit le... Et pourquoi on ne prendrait pas le Groenland, le Panama, et d'ailleurs le Canada, etc. Enfin, c'est quand même une révolution. Et par ailleurs, il y a des tas de problèmes de droit international qui se posent dans notre entourage en Europe, notamment notre voisinage sud, hein, avec la guerre qu'il y a aujourd'hui à Gaza. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que quand les États-Unis disent qu'ils ne veulent plus cette responsabilité, ça veut dire que ça affecte l'ordre international, donc le droit international. Et le droit international, c'était un système qui protégeait quand même les pays plus faibles, en fait. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où la mondialisation économique est remise un peu en question. Pourquoi elle est remise en question ? Parce qu'ils se sont rendus compte, enfin, en tout cas c'est leur raisonnement, que la mondialisation avait beaucoup profité aux pays émergents, et notamment à la Chine, mais qu'en contrepartie, la croyance qui faisait qu'on allait pouvoir démocratiser, libéraliser ces systèmes politiques était infondée. Donc il y a eu des croissances, mais il n'y a pas eu nécessairement de libéralisation, entre guillemets, politique. Donc il y a ça, et on est en train d'y revenir un peu, et puis il y a cet impact sur le droit et l'ordre international. Pour nous, en Europe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces 80 ans d'alliance atlantique, ils sont quand même en péril. Dans cette alliance atlantique, elle est en péril. On a vécu la construction européenne à travers cette protection et à travers cette alliance. Ça nous a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup protégés, beaucoup, beaucoup encouragés en Europe à unifier, à rendre plus cohérent ce projet européen. Et comme je disais tout à l'heure, cette loi de la jungle, en fait, c'est une destruction spectaculaire de relations, hein, de relations entre pays, de relations de coopération entre pays. C'est très important. Aujourd'hui, ce système international qui, en 89, s'était ouvert... Moi, j'ai vraiment vécu cette période-là complètement. En 89, il y a eu la chute du mur, la fin de l'Union soviétique. Et à un moment donné, on a commencé à recroire de nouveau à la coopération internationale. On s'est dit tout d'un coup au Conseil de sécurité, il peut y avoir un consensus sur la résolution des grands conflits, justement, ou des petits conflits ou moyens conflits. On peut de nouveau ouvrir un espace de dialogue autour de ces sujets. Et à ce moment-là, et ça, c'était vraiment mon expérience, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de connaissances qui ont été acquises sur la médiation, sur la résolution des conflits, la prévention des conflits. Il y a eu un génocide au Rwanda en 94. On a beaucoup réfléchi aux mécanismes de la violence, à la prévention de la violence, à comment on évite que ça se reproduise. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions sur le maintien de la paix aussi, hein, les forces de maintien de la paix, les casques bleus, comment on fait, et comment on fait notamment dans des pays fragiles, dans des pays qui sont comme l'Afghanistan, comme Haïti, ou qui ont un État très très fragile, très très faible. Il y a eu tout un apprentissage des processus de paix, tout un apprentissage de la technique de négociation, de comment on fait pour partager le pouvoir dans un endroit, dans un pays qui a subi des violences, et des violences ethniques, et des violences et des actes de crimes contre l'humanité, par exemple. On a beaucoup beaucoup appris. Et cette période-là de l'histoire, elle est en train de se refermer. Donc, en fait, ce qui est très très troublant, je dirais, c'est que aujourd'hui, on n'a pas véritablement cette notion qu'on avait d'un système autour de 45, notamment de l'Occident, qui avait un narratif un peu universaliste et qui pouvait proposer ses valeurs libérales, je dirais entre guillemets, au reste du monde. Ce discours-là, aujourd'hui, il est contesté. Cet ordre-là, il est contesté, et on a donc quelque chose à inventer, je dirais, ou à réinventer. Alors, c'est quand même, je dirais, très troublant qu'on se trouve dans ce monde très, très polarisé et très contesté. Et ce monde, il se détruit aussi, et c'est là où j'en viens un petit peu à la deuxième partie aussi de mon intervention, ce monde, il se détruit aussi de l'intérieur. Donc, c'est pas juste qu'on est dans un monde un peu tendu et polarisé, c'est qu'on a aussi dans nos sociétés un espèce d'affaiblissement de la cohésion sociale, un affaiblissement de la cohésion politique, un affaiblissement de la confiance, d'un niveau de confiance en nos institutions, en nos gouvernements a aussi beaucoup baissé. Et évidemment, les inégalités ont continué à prospérer. On a aussi le problème de la technologie avec toutes ces algorithmes qui divisent en fait, et qui séparent les gens en communautés qui finalement se réunissent de moins en moins, s'isolent. C'est la technologie, les médias sociaux, etc. Ils ont plutôt tendance à isoler la société et à créer une polarisation importante. Un rapport de la Fondation Carnegie il n'y a pas longtemps qui a montré que dans le monde, depuis 15 ans, la polarisation avait augmenté exponentiellement. Et pas seulement en Europe, mais partout dans le monde. Alors, à quoi c'est dû? Je pense que les médias et les technologies, en fait, ont quand même quelque chose à voir avec ça. Alors, et donc, il y a cette forte polarisation en interne, en Europe. Qu'est-ce qu'on en fait dans les sociétés? Qu'est-ce qu'on en fait et comment on y répond? Donc, moi, il me semble que tout ce savoir-faire sur la médiation, sur la résolution des conflits, etc., ce savoir-faire, il faut le garder, il faut le cultiver et il faut qu'on réapprenne collectivement à réfléchir autrement et qu'on réapprenne à résoudre ces conflits, à les travailler. Alors, comment on peut faire? Ça, c'est mon avis personnel. Je pense qu'au niveau européen, on n'aura pas le choix que de s'armer. Il va falloir s'armer. Je sais que c'est pas le thème de cette journée, mais je crois que dans ce monde de carnivores, parce que c'est vraiment ça, on n'aura pas le choix. Il faut qu'on soit fort pour être respecté. Et il faut que la voix de l'Europe soit entendue. Je pense qu'il faut aussi qu'on récupère une certaine forme de souveraineté numérique. Ça, c'est, et on entend beaucoup ça aujourd'hui dans les médias. Mais ce sur quoi je veux insister aujourd'hui, c'est que il faut aussi faire de la diplomatie, il faut aussi recréer des dialogues, et il faut créer des dialogues en réinventant un certain nombre d'alliances, en réinventant un certain nombre de relations. Donc j'arrive au cœur de mon métier actuel, qui est de créer des coalitions, des nouvelles coalitions. Qu'est-ce qu'on fait, nous, au Forum de Paris sur la paix? On fait ce qu'on appelle de la gouvernance mondiale. On renforce le système international, le système multilatéral, et on le renforce en créant des coalitions, d'intérêts sur des sujets particuliers. Et dans ce monde-là, aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce système multilatéral, il avait plein de trous, qu'il y avait plein d'endroits où il manquait des institutions ou des organisations, et il manquait des normes aussi. Je pense à la technologie, l'intelligence artificielle, mais aussi sur la lutte contre le changement climatique, par exemple. Donc, la réalisation de base, c'est de se dire que il y a des tas de sujets sur lesquels les États doivent coopérer, sinon ils s'en sortiront jamais. Donc, le climat, la lutte contre le changement climatique, c'en est un. C'est un très important. La pandémie, la lutte contre les pandémies, c'en est une autre. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la gouvernance mondiale. Donc, comment on fait? Pour travailler sur la lutte contre le changement climatique, il va bien falloir parler aux grands émetteurs de gaz à effet de serre, etc. Donc, comment on fait? Il faut créer un dialogue avec ces pays-là. Comment on fait pour travailler sur la régulation de la technologie? Avec qui on discute de ces sujets-là? Comment on fait pour travailler sur les pandémies? Avec qui on discute? Les États-Unis viennent de se retirer de l'OMS. Ça veut dire que l'OMS a perdu 20% de son budget. Il y a des millions de gens qui sont morts du Covid, il n'y a pas si longtemps que ça, y compris aux États-Unis, et beaucoup aux États-Unis d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour répondre à cette urgence? Est-ce qu'il ne faut pas compenser, d'une certaine manière, le retrait des États-Unis de l'OMS pour pouvoir se protéger contre les pandémies? Bref, tout ça pour dire que, dans un certain nombre de grands sujets, commerce, technologie, climat, santé mondiale, il va falloir faire de la gouvernance mondiale. Donc, continuer à travailler sur les normes. Et l'Europe est une puissance, et ça, je veux vraiment insister là-dessus, c'est une puissance normative. C'est une puissance qui est importante dans le monde aujourd'hui parce que c'est une puissance normative. Et il faut soutenir, en fait, ce rôle-là. La norme, aujourd'hui, c'est la puissance. On voit très bien, je ne sais pas si vous avez entendu les discours de J.D. Vance, du vice-président américain, récemment au sommet sur l'intelligence artificielle en février à Paris ou à la conférence de sécurité de Munich plus récemment. Là où il attaque vraiment les Européens, c'est sur la régulation des technologies. Il dit, ce que vous appelez, vous, la désinformation, en fait, c'est la liberté de parole. Hein, vous ne pouvez pas empêcher les gens de s'exprimer. Et donc, c'est vraiment sur les valeurs qu'il a, et la façon dont l'Europe réagit qu'il a attaqué vraiment là. Donc, c'est là-dessus qu'il faut être fort, en fait. Donc, j'emploie volontairement ce langage de la force parce que c'est important. La norme, c'est aussi un élément de puissance. On va célébrer les 10 ans des accords de Paris, là, bientôt. Les 10 ans des accords de Paris, c'est aussi très important. C'est un élément normatif qui n'était pas contraignant. C'était pas contraignant, les accords de Paris, mais cet élément-là a eu un impact quand même sur le comportement des différents États, etc. Ça a eu un impact normatif, malgré tout. Donc, il faut qu'on continue à faire ce genre de diplomatie-là. Il faut qu'on préserve, en fait, ce multilatéralisme. Alors, ensuite, nous, à notre niveau, au niveau national, il y a toute cette connaissance, toute cette pratique, je dirais, de résolution des conflits, de prévention des conflits, qu'il faut qu'on mette en route. Et pour vous parler de ça, je vais commencer par une histoire que j'ai vécue, qui concerne Mandela, Nelson Mandela. J'ai été pendant longtemps au Burundi et au Rwanda, et au Congo, en fait, dans cette région qu'on appelle la région des Grands Lacs. Et vous savez qu'il y a eu un génocide entre les Hutus et les Tutsis en 1994 au Rwanda. Il y a eu 2 guerres au Congo qui ont impliqué la moitié du continent ou 3/4 du continent africain, mais aussi un certain nombre d'acteurs qui étaient au-delà du continent africain. Et il y a eu une guerre civile au Burundi qui a fait 450 000 morts, qui était aussi entre l'armée et des groupes rebelles, qui avait aussi une composante ethnique, puisque au Burundi, c'est à l'inverse du Rwanda, c'est un gouvernement minoritaire, plutôt dominé par les Tutsis, qui a gouverné une majorité qui était plutôt Hutu. Donc un peu l'inverse, la politique inverse de celle du Rwanda. Et ce processus, cette région était ensanglantée. Le génocide au Rwanda, 1 million de morts, 450 000 morts au Burundi, des millions et des millions de gens déplacés en RDC, hein, Congo-Kinshasa, beaucoup de massacres directs, mais aussi de campagnes de viol de masse. Enfin, vous avez entendu parler de ça dans les médias. Donc, une région très, 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 très ensanglantée. Et quand le processus de paix a commencé pour mettre fin au conflit du Burundi spécifiquement, c'était un processus africain. C'était d'abord le président de la Tanzanie, Julius Nyerere, qui était médiateur. Et puis ensuite, il est mort 18 mois plus tard. Et c'est Nelson Mandela qui a décidé de devenir le médiateur. Et donc, tout le monde au Burundi, toutes les délégations, le processus de paix étaient enchantés, étaient excités de rencontrer le grand Nelson Mandela. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Mandela? Il a créé des relations avec chacun de ses leaders, avec chacune de ses délégations. Il y en avait 19 hein, au processus de paix en Tanzanie. Et il a créé des relations et il est venu leur parler directement à chacun. Et il a dit, je l'ai entendu de mes propres oreilles, il a dit à certains leaders de groupes armés, je vous connais, j'ai entendu parler de vous. J'ai entendu parler de vous et j'aime pas ce que vous faites, ce que vous avez fait. Par contre, vous êtes ici aujourd'hui, ça j'aime bien. Ça j'aime bien et ça j'aime ce que vous faites maintenant. Et je l'ai vu aussi passer dans tous les étages, dans tous les rangs de l'amphithéâtre, avant de faire un grand discours qui a vraiment fait tourner le processus de paix. Il est passé dans chaque rang, et c'était un vieux monsieur, il était frêle, il avait une canne, il s'appuyait sur quelqu'un. Il a serré la main de toutes les personnes dans la salle, y compris moi d'ailleurs. Et on était très, 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 très honorés, en regardant les gens dans les yeux, en souriant, en faisant des commentaires, des compliments sur la coiffure, sur le parfum des uns des autres, etc. Vraiment un petit mot personnalisé à chacun. Et ce vieux monsieur qui est passé dans tous les rangs, il est arrivé sur scène et il a fait un grand discours sur l'ethnicité dans le processus de paix, en disant on croit que c'est un conflit ethnique, alors qu'en fait c'est un conflit politique. Et tant qu'il y aura ce problème d'ethnicité qui va empoisonner ce conflit et que tout le monde se réfugiera derrière ces questions ethniques, je suis protégé, je suis attaqué, je suis victime, je suis bourreau, ça ne pourra jamais fonctionner. Il y a une question à régler, c'est la question de la coexistence entre la minorité et la majorité. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce discours a fait des vagues énormes dans toute la région parce que c'était complètement tabou à l'époque de parler d'ethnicité. Tout le monde ne pensait qu'à ça, bien entendu. Tout le monde ne pensait qu'à ça et le conflit était... Les gens, leur identité était énormément réduite à la question ethnique, mais personne n'en parlait. Et lui, il a cassé le tabou. Il a complètement fait voler les choses en éclats. Alors pourquoi je raconte cette histoire ? Parce que après ce discours, il y a eu énormément de colère, je dirais, chez les acteurs de la région, pas seulement au Burundi, mais dans toute la région, y compris au Rwanda. Comment se permet-il ? Mais comme c'était Mandela, c'était Mandela. Voilà. C'est pas possible de contester son discours ou de le critiquer. Et après, pendant les discussions au processus de paix, il y a eu plusieurs mois, voire années, où les gens se sont insultés en disant « c'est vous les génocidaires ?»« Non, mais vous êtes une armée monoethnique Tutsi, vous êtes des putschistes. »« Non, vous êtes des génocidaires, vous êtes des putschistes, etc. » Et au bout d'un certain temps, ça comme si ça avait crevé l'abcès un petit peu. Et au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte que si, effectivement, il fallait partager le pouvoir, parce que c'est bien ça dont il s'agissait quand même, pour ces leaders, il fallait bien passer par reconnaître la reconnaissance que l'autre existait, que l'autre partie existait, et que l'autre partie avait aussi des victimes dans ses rangs. Et une des choses qui, moi, personnellement, m'a le plus touchée pendant ce processus de paix, c'est de voir à quel point les individus s'étaient transformés au fur et à mesure des années et au fur et à mesure de ces confrontations et de ces dialogues. Et vraiment, ça, c'est un message que j'ai retiré, très fort, que j'ai retiré de tous ces processus, qui étaient quand même très difficiles. Je veux dire, c'était des discussions très difficiles. Il y avait beaucoup de victimes, beaucoup de bourreaux aussi, beaucoup de sang sur les mains, et puis des crimes vraiment très, très graves. C'était des crimes de masse. Mais il y a quand même eu des négociations. Et il y a quand même eu un accord de paix qui a tenu par la suite. Et ça, c'était vraiment très fort. Une personne que je connais, qui était un militaire, m'a dit un jour, au bout d'une longue conversation, que grâce à ce processus de paix, il avait compris qu'il avait lui-même fait des erreurs. Et il m'a dit, au moment où j'ai fait tirer dans la foule, je cite, c'était le début de la guerre, J'ai vu que les villageois avaient peur et venaient nous attaquer avec des pierres, et j'ai eu peur et j'ai fait tirer dans la foule. Il dit « Maintenant, je suis prêt à faire face à la justice, parce que j'ai compris que c'était une erreur. » Et en fait, toute cette transformation dans les processus de paix, qui dure, je veux dire, ça se fait pas comme ça avec une baguette magique, mais c'est des transformations qui font que les gens se confrontent les uns aux autres et que la polarisation et leur je dirais aussi leur mémoire historique, leur façon d'interpréter l'histoire, elles se confrontent et finalement, elles se transforment. Ils ont fini par reconnaître les uns les autres que tout le monde était victime, mais pas seulement bourreau, que ce n'était pas blanc et noir, que ce n'était pas le bien et le mal, que tout le monde avait commis des crimes et qu'il fallait bien réussir à vivre ensemble. Et donc, pour moi, je suis sortie de cette expérience complètement transformée moi-même, et je l'ai gardé et chéri, je dirais, dans ma tête pendant très longtemps. Et je pense qu'on peut tirer des leçons, en fait, de ces expériences. Aujourd'hui, même dans nos sociétés, il faut travailler à la contre-polarisation. Il faut résister à la polarisation. Et c'est facile à dire, parce qu'il y a des trucs qui sont inacceptables, parce qu'il y a des débats politiques inacceptables, parce qu'il y a des gens qui ont des positions inacceptables, etc. Mais si on ne travaille pas à contrer cette polarisation et à retravailler un peu, comme on dit, ça me vient en anglais, « across the dividing lines », donc de l'autre côté de l'équation, il faut aller voir les gens avec qui on n'est pas d'accord. Il faut construire des coalitions avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Ça prend du temps, c'est pas facile. Mais quand elles sont construites, ces coalitions, elles sont très puissantes, elles sont légitimes elles sont crédibles, elles ont un impact, elles sont le meilleur atout qu'on a pour résister à la polarisation et à recréer une forme de confiance. Donc il faut croire au dialogue et il faut éduquer à ça. Éduquer à l'antipolarisation, éduquer à la paix. C'est pas la paix au sens grand sens du terme. C'est vraiment au dialogue. Il faut croire au dialogue, etc. Parce que si on est divisé, on est faible. Et pour revenir à mon premier point, on est aussi manipulable, très manipulable. Donc je crois qu'il faut vraiment réapprendre nous ces méthodes de résolution et de prévention des conflits pour être plus forts ensemble et pour pouvoir résister aussi aux pressions extérieures et au monde qui nous entoure, qui, je pense, dans les années à venir, va pas être très facile à vivre. Voilà.